vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Détesté depuis toujours? Non, nous sommes amis. Alors, si je lui disais que je l'aime, je perdrais son amitié à jamais. Sylvain lui dit, je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas ce que pouvait vexer cette personne. Surtout que vous êtes amis. Est-elle libre? Je lui dis, oui. Je lui dis tristement, parce que l'amour que je lui donne est un amour qu'elle ne peut accepter, c'est contre sa nature. Sylvain lui dit, elle est complètement folle ton amie, ou compliquée. Oui, moi qui suis constamment près de toi, toi tu ne m'as jamais avec ton ami. Ce n'est pas gentil de cacher ces choses-là à son meilleur ami. Et tu ne nous as même pas présenté. Pourquoi? Je lui dis, j'ai pas besoin de vous présenter. Et puis je te jure que tu es mon meilleur ami. Sylvain lui dit, oui, mais l'autre, tu l'aimes vraiment. Sois pas jaloux si tu savais. Peut-être qu'un jour tu le sauras. Quoi? Ce qui tourmente mon corps. Si nous sommes amis, tu dois me le dire. Plus tard, par respect à notre amitié pour toi, Sylvain demande. Est-ce que tu écris à ton ami? Non, pas la peine. Par contre, j'écris à mes parents. Ils m'écrivent aussi. Toujours pas de nouvelles d'Apolline, Sylvain lui dit. Depuis que madame et madame la marquise de Saint-Véran aient dénigre et méprise le reste du monde. Elle doit être pleine de bijoux, robes. Son mari doit la faire voyager. Il veut lui faire oublier son âge. Je lui dis, tu as raison, mais ma sœur est une petite sotte qui ne pense qu'au luxe et à la fête. D'ailleurs, à Paris, je me demande ce qu'elle a dû faire avec mon frère. Je lui baille et dis, bon, on boit un dernier verre et on va se coucher. Et se servent un verre. Le propriétaire leur a trouvé une autre servante, une vieille femme du village, et la vie continue. Au loin, Apolline, la pauvre Apolline, toujours prisonnière dans l'étable, elle est toute maigre, vieillie, elle ressemble à une vieille, son visage s'est rapetissé, osseux, son corps est squelettique, elle ressemble à une vieille, elle lutte à cause du froid, de ses sabots qu'elle met pieds nus. Sa robe est déchirée, usée, sale. Apolline sent mauvais. Elle sent la bouse de vache, l'urine. Elle n'a rien pour se laver. De temps en temps, à cachette, elle se nettoie avec du lait de vache. Ça arrive à enlever lorsque la crasse n'est pas trop vieille. Et puis, elle sent le lait. Elle fait tout dans l'étable, ses excréments dort et mange. À 5h du matin, on la réveille. C'est cette garce de Madame Pipe qui vient lui donner le seau pour la traite et après la traite, le foin pour les vaches. Apolline a pris l'habitude de traire les vaches et le fait automatiquement. Puis, une fois qu'elle a fait son travail, on lui apporte sa gamelle de nourriture. Un mélange de restes de tout, ça a une drôle de couleur et d'odeur, mais lorsqu'on a faim, on ne regarde pas tant. Apolline a froid, tousse, a mal de partout. Voilà des mois que personne ne lui parle, elle a perdu la notion de parole, elle est même plus capable de se plaindre. Dans sa tête, mal nourrie, c'est un cauchemar qu'elle vit, incompréhensible et cruel. De temps en temps, sans qu'elle sache pourquoi, Madame Pipe la fouette et la laisse KO. Et moi aussi. Et elle sort. Ses cris, pendant qu'on la bat, appelle au secours. Personne ne vient à son aide. Ses cris, ses appels font partie des bruits du coin. C'est comme les loups que l'on entend la nuit. On n'y fait plus attention. Les domestiques, les paysans, sont des gens rudes, que rien n'émeut. Surtout pas les cris d'une femme. Peut-être celui d'une vache ou d'une chèvre, mais une femme, pauvre, c'est normal qu'elle souffre et reçoive des coups. Surtout une femme de la ville, une étrangère, une traînée, comme elles le sont toutes, sauf celle du village. Et puis, le maître et Madame Pipe sont de braves gens, des gens qui savent ce qu'ils ont à faire. Alors, Apolline, malgré ses mauvais traitements, sa vie inhumaine continue à vivre, car malgré elle, elle a la force de sa jeunesse, malgré que physiquement, elle ne le soit plus. Une lumière est en elle qui lui dit de lutter pour ne pas descendre, pour ne pas s'effondrer. Monsieur le marquis ne vient jamais la voir. Elle entend de temps en temps sa voix qui donne des ordres dans la cour. Elle n'a eu envie de le voir, cet homme qui la traite et la trompé, volée. Le froid augmente et Apolline s'enfonce dans la paille pour se préserver. Malheureusement, la paille est gelée. Apolline tremble jour et nuit. Un jour que Madame Pipe lui donne les seaux pour la traite, elle a le courage de lui dire « Froid !»« Bientôt, tu auras chaud, ma belle. Tu vas danser. Tu vas voir. » Elle lui donne un coup de pied dans le ventre. Oh! Ce qui fait tomber à la renverse Apolline. Puis Madame Pipe quitte l'étable. Une nuit, Apolline est couchée dans le foin. Elle est réveillée par la porte qui s'ouvre. C'est Madame Pipe. Elle tient à la main une torche enflammée. « Où es-tu ? » Elle regarde autour d'elle et voit Apolline couchée sur le foin. Elle lance sa torche sur elle et se sauve en courant en fermant la porte. La vieille n'a pas senti sa main lancer fort la torche. Elle était près du foin, mais pas sur Apolline. Apolline voit le foin prendre feu, sort du foin et court vers la porte. Mais la porte a été poussée, et bien poussée, fermée. Elle se retourne, le foin s'enflamme, a fait de grandes flammes, avec qui touche le plafond, les poutres en bas du plafond. Les vaches meulent et trépignent du pied. Le feu prend de l'ampleur. Apolline panique. Le chien chute, une issue, crie au secours, bouge la porte. Le feu grandit. Elles se sont perdues. Elle a cet instinct. Elle a cet instinct de conservation qui a cet instinct de faire redevenir ce qu'elle était. Ses frères lui reviennent. Elle crie de plus en plus fort, au secours, comme la porte. La porte s'enflamme, s'effondre sur le sol. Elle se sent envahie. Le feu est tombé évanoui sur le sol. La porte s'ouvre. Des hommes accourent avec des seaux. Deux hommes traversent les flammes et emportent Apolline évanouie. Elle reste dans le noir, les yeux fermés, sans rien ressentir. Petit à petit, elle se réveille, voit contre elle des visages d'hommes qu'elle ne connaît pas. Elle a chaud. Elle sent de la douceur autour d'elle, l'impression de revivre. Un homme d'un certain âge lui demande « Vous êtes les mieux ?» Elle fait vous la tête. Jamais elle s'est sentie aussi bien. Un autre homme lui demande « Vous êtes bien, madame Apolline de Saint-Auban ?» Oui. Que faisiez-vous dans cette grange ? Mon mari m'a retenue prisonnière. Le monsieur lui dit, votre mari a été arrêté ainsi que sa gouvernante. D'après les témoins, c'est eux qui auront volontairement mis le feu à la grange. Oui, madame Pipe est entrée et m'a jeté une torche enflammée. Vous allez vous reposer, madame, et nous reviendrons plus tard. Les gens s'éloignent. Apolline s'endort. Elle se sent bien. Bien. Elle ne veut rien savoir. Une heure plus tard, on vient lui apporter un bol de bouillon. Elle reprend des forces. Elle demande à cette domestique qui la sert avec respect « Pourquoi m'avez-vous laissé maltraitée par mon mari. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Lorsque j'irai mieux, tous les domestiques seront renvoyés pour ne pas m'avoir aidé. La bonne ne dit rien. Elle sort avec le bol. Apolline reprend des forces. Et ce que dit qu'elle peut quitter son pays de malheur et retourner chez ses parents. Un médecin vient la voir une fois par jour. Il lui donne des fortifiants, lui soigne ses plaies et lui prépare de la nourriture. Apolline reprend des forces, elle est jeune. Une semaine plus tard, un commissaire vient la voir avec un gendarme et lui dit « Votre mari a avoué, il voulait vous faire mourir pour se remarier, mais sa gouvernante sont en prison et sera jugée. » Apolline lui dit « Je veux le divorce, dans ce cas, vous sera sûrement accordé. » Apolline reprend des forces et ne pense qu'à une chose, partir. Les jours passent, elle n'a rien dit à sa famille pour ne pas les effrayer, mais leur a écrit qu'elle va bien et souhaite revenir chez eux. Deux semaines plus tard, son mari a été trouvé mort d'une crise cardiaque dans sa cellule. L'âge, elle est veuve enfin. Décide de vendre ses biens et de rentrer à Lyon. Je déteste ce pays. Une fois rétablie, elle met en vente tous ses biens avec l'aide d'un notaire, ce qui lui fait une très bonne somme, car en plus elle a ses actions, elle a des immeubles un peu partout, et à Lyon son hôtel qu'elle ira vivre lorsqu'elle ira mieux. Une fois remise, fraîche, et redevenue jeune et belle, riche, très riche, elle retourne à Lyon. Ouf! Elle se dit dans la diligence qui la ramène, car il n'y a pas de train dans ce pays perdu, qu'elle dira tout à ses parents. Elle est heureuse, elle va pouvoir vivre comme elle le désire, riche, indépendante et auprès de ses frères qu'elle aime tendrement. Le voyage se fait dans la joie au corps. Elle arrive chez ses parents, chez sa mère qui la voit arriver avec tous ses bagages. « Mais que t'arrive-t-il ? » ?»« Bonjour mère, je suis très heureuse d'être de retour. » Elle embrasse sa mère et lui dit « Vous n'avez pas lu les nouvelles ? Pourtant tous les journaux en ont parlé. En tout cas c'est Bourgogne. Je suis veuve, libre et riche. Mon mari est mort d'une crise cardiaque. Tu pourrais avoir un peu de respect pour sa mort. Oh, c'est vrai. » Tu ne sais pas dans quel état il me faisait vivre ce saligaud. Dans une étable, avec les vaches, à coups de fouet, et je lui vais travailler comme une esclave. Je ne te crois pas. J'y ai pensé. Je te ferai lire le rapport de police. En attendant, je retourne à ma chambre. Je peux ? Oui, bien sûr, mais tu m'as l'air bien excité. C'est l'air de la liberté. Et elle monte à sa chambre. Et une heure plus tard, elle sort de sa chambre pour retrouver sa mère au salon avec le rapport de police.
Entrez.
Sa mère est assise près de la cheminée. Elle va vers elle et lui tend le rapport. Tenez, mère.
La mère le prend et le lit. Apolline va s'asseoir à côté d'elle. Une fois que la mère l'a lu, elle lui dit « C'est incroyable, ma pauvre petite. Je comprends pourquoi nous n'avions pas de tes nouvelles. Comment te sens-tu maintenant ?»« Mieux, je mange bien, reprends des forces, mais je dois être suivie pendant quelque temps par un médecin, à cause de mes plaies et de mon état général. » Tu iras voir le bon docteur Poirier. Ah non alors, surtout pas. Mais avant de partir, tu le voyais presque toutes les semaines. Je ne veux plus le voir. J'irai jamais chez lui. Votre bon docteur est un homme dégoûtant. Je vous conseille de ne plus le revoir. Qu'a-t-il fait? J'aime mieux pas vous le dire, mère. Et permettez-moi de n'en parler à personne, même pas au docteur. Je te le promets, mais je ne te comprends pas. Ce n'est rien, c'est du passé. Son père a appris son retour et sa femme l'a mise au courant des horreurs qu'elle a vécues. Apolline va voir son frère Charles-André dans sa chambre. Voilà de retour. Et vous, tu vois, veuve, riche et libre. Félicitations. Elle s'approche de lui, se penche et l'embrasse. Puis s'assoit sur le rebord du lit. Elle lui dit, je vois que tu restes toujours le même, enfermé dans ta chambre. Et oui, petite sœur, après une journée de travail à écouter les enneries des locataires, on a envie de calme. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Tu es en visite? Non, mon cher, je suis venu définitivement. Et qu'as-tu fait à ton vieux? Il a décédé. Ça n'étonne pas de toi. Je suis pour rien. Et d'ailleurs, c'est lui qui a failli avoir ma peau. Charles-André lui dit, je ne savais pas que les vieux avaient autant de tempérament que ça. Si tu savais ce qu'il m'a fait, elle lui raconte son histoire. Une fois qu'elle est finie, Charles-André lui dit, voilà un bon sujet de roman. Elle lui dit, si tu fais de mon histoire un roman, je te demande un pourcentage. D'accord, de toute façon, il ne se vendra pas. Elle lui demande, et Jules? Jules est parti passer quelques mois au pays helvétique, en Suisse. Elle lui demande, qu'est-ce qu'il était à faire là-bas? Son ami Sylvain Dupin est malade et a besoin de changer d'air. Alors Jules est parti avec lui. Les parents ont été d'accord parce que monsieur a réussi ses examens. Elle est heureuse parce qu'elle se dit que Sylvain est avec Jules, donc elle pourra le revoir. Elle lui dit, « Il est gentil, Sylvain. » Jean-André la regarde et lui dit, « Je ne te suffis pas ?» Elle le regarde bien et lui dit, « Tu es tellement occupé par d'autres choses ?» Il lui caresse le dos. Elle sourit, s'allonge à côté de lui. Il s'allonge sur elle, l'embrasse sur le visage. C'est bon de te retrouver, petite sœur. En Suisse, le temps est détestable. Il fait gris, froid. Lorsqu'il ne neige pas, il pleut. Les deux amis restent enfermés dans leur chalet et essayent de se distraire comme ils peuvent. Lire, jouer aux dames, dessiner, écrire. Mais Jules sent que Sylvain s'ennuie et qu'il a besoin de changer. Il passe des heures à regarder le paysage morne et triste et à soupirer. Malgré leur tristesse, Jules et lui s'entendent bien. L'escapade de Marinette est oubliée. matin, en prenant le petit déjeuner, Sylvain lui dit « Si l'on rentrait, je suis guéri et maintenant il va faire de plus en plus froid. » Je lui dis « Comme tu voudras. » Sylvain le regarde bien et lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Bien, je suis tout de même triste de partir, car à Lyon nous nous verrons moins. J'étais heureux d'être avec toi. » Sylvain lui dit « Moi aussi, mais nous nous reverrons souvent. Tu es mon meilleur ami. Merci, je t'aime beaucoup. Peut-être un peu trop, » Sylvain lui dit. « Mais on n'aime jamais assez. » Avant, dans la matinée, ils ont prévenu le propriétaire qu'ils quittaient le chalet le lendemain et ont commencé à faire leurs bagages. Avant de partir, Jules a bien regardé autour de lui. Il a un petit pansement au corps. « Je suis triste de quitter cette maison. C'est malgré moi. Nous avons tellement fait de choses ensemble. Nous étions comme deux frères. » Sylvain l'embrasse sur la joue et lui dit « Merci. Mais ne sois pas triste. Je pars avec toi et nous serons très proches. » Jules, surpris, lui dit « Oui, mais nous ne vivons pas ensemble. » Et ils sont partis sous la neige. Lorsqu'ils ont pris le train, il était presque vide. Le compartiment sans l'humidité, le tabac, le vêtement mouillé, avec cette chaleur particulière, tout ça donne mal au corps à Jules. Durant tout le trajet, il a envie de vomir. Le bruit du train, le paysage qui défile lui donne le vertige. Sylvain s'en aperçoit. « Tu n'es pas bien ?»« Je suis incommodé par l'odeur, mais ça passera. » Le trajet lui semble un cauchemar de bruit, d'images qui défilent. Il a l'impression que ce qu'il ressent symbolise la fin d'un paradis perdu, la fin du bonheur avec Sylvain. Sans que le retour va lui apporter quelque chose de mauvais, de dangereux, qui va se séparer à Sylvain. Il le regarde. Sylvain lit calmement son roman. L'air calme et tranquille. Tellement beau. Oui, beau. De la beauté des purs. De la gare, piano fouillard. Ils sont épuisés, mal de partout. Jules va d'abord déposer Sylvain. Il a envie de pleurer. Le fiac s'arrête devant son immeuble. Sylvain lui dit « Au revoir et merci. » Jules lui tient fortement la main et lui dit « Nous nous reverrons. » Sylvain le regarde surpris et lui dit « Oui, bien sûr. Passe me voir quand tu veux. Tu seras toujours bien reçu. » Jules a fortement envie de pleurer. Sylvain lui sourit, donne un baiser sur la joue. Nous sommes mon fort frère, il faut que j'y aille. Il dégage sa main tout doucement et sort du fiord. Jules le voit entrer dans son allée et dit du cocher avec les bagages. Puis le cocher revient et ils partent. Jules arrive vers chez lui sous une pluie battante. Il sonne au portail. Le domestique lui ouvre. « Oh, monsieur Jules, vous auriez dû prévenir. On aurait été vous chercher à la gare. »« Bonjour, Martin. » Il prend les bagages et ils vont jusqu'à la maison. Une fois rentré à la maison, Jules demande « Ma mère est là ?»« Bon, monsieur, elle est au salon. »« Bien, je vais la voir. » Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.